Oui, bonsoir Tristan. Alors déjà, merci pour la qualité de vos analyses. Et voilà. Alors, c'est un rêve que j'ai fait il y a 6 mois. Bon, alors je commence l'explication. Alors, ça se passe sur le terrain de ma grand-mère, dans un lieu qui est connu. Il y a un gros chêne, un tronc énorme, au moins 5 mètres de diamètre. Près d'un fossé. Enfin, il y a deux groupes de personnes qui sont en contrebas qui discutent. Alors, je suis dans un des groupes. Ça bavarde, les gens disent, vous inquiétez pas, cette arme ne tombera jamais. Soudain, sans explication, l'arbre commence à osciller et semble choisir sa direction. Il commence à se courber vers mon groupe et soudain il y a un craquement. Toutes les personnes sont surprises. Le tronc commence à bouger et s'abat sur nous, enfin dans le groupe dans lequel je suis. Soudain on voit arriver l'arbre sur nous. Impossible de fuir. On est comme figé dans une sorte de peur, je sais pas. Et d'un seul coup, on voit le tronc qui vient de plus en plus gigantesque. Et soudain, nous sommes écrasés. Voilà. Et juste avant d'étouffer, je me retrouve dans l'autre groupe de personnes. Alors je me sens vivant. Le groupe va vers le tronc. Soudain, une personne dit « Laissez tomber, c'est plus la peine, ils sont morts ». Et moi, je me vois, mais avec un autre visage, je me sens vivant. Voilà, c'est la fin du rêve.
D'accord. Alors, vous êtes donc dans la maison de votre grand-mère ou dans le terrain de votre grand-mère? J'ai pas bien compris.
Oui, c'est sur le terrain, oui. Enfin, là, elle a une maison, c'est-à-dire que c'est à flanc de c'est une colline, et ça a été pris au bulldozer, ça fait une plateforme. Donc sur le versant, il y a le haut et le bas. Et le terrain est juste au milieu, qu'en fait.
Oui, et l'arbre existe dans la réalité ou il est imaginaire?
Ah, ça je ne sais pas.
Non, mais cette maison de votre grand-mère, elle
Ah
existe?
oui, la maison existe, tout existe.
Et l'arbre aussi?
Bah, cet arbre-là. Non, j'ai pas l'idée précise de l'avoir observé, quoi, en fait.
D'accord, donc c'est un élément imaginaire du rêve.
Je pense, oui.
Alors, vous parlez de groupe.
Oui.
Il y a deux groupes.
Oui.
Vous êtes d'abord dans le groupe qui reçoit l'arbre,
Oui.
et ensuite vous êtes dans le groupe qui a été protégé, qui n'a pas reçu l'arbre.
Oui, mais à l'extérieur, en fait. Oui, je me retrouve plus dans l'autre groupe, mais à côté du groupe. Un peu à l'écart, en fait.
Excusez-moi, je vois pas très bien. Donc, dans la première partie, quand le rêve oscille et cherche son point de chute,
Oui.
il tombe sur le groupe dans lequel vous êtes.
Tout à fait, oui.
Alors, ce groupe de personnes, vous pouvez les décrire ou ce sont des personnes vagues?
Non, c'est vague.
C'est vague. Et les autres personnes qui sont proches, vers lesquelles vous allez vous retrouver ensuite?
Ah non, j'ai pas du tout de. C'est pas des gens que je connais, quoi.
D'accord. Est-ce que là, vous-même, vous aussi, vous avez fait un travail en groupe?
Oui, il y a plus de 20 ans. Hein.
Il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, vous êtes ressuscité, que vous n'êtes plus cette ombre écrasée?
Oui, tout à fait, oui.
Oui, ce rêve, il est récent?
Je l'ai fait il y a 6 mois.
Il y a 6 mois. Qu'est-ce qui a pu générer ce rêve? Votre grand-mère est décédée aujourd'hui.
Oui.
Ça a été une perte énorme, cette grand-mère?
Effectivement, pas trop, non.
Pourquoi placez-vous alors le rêve dans le contexte de la maison de notre grand-mère?
Ah ben, j'ai pas placé, c'est arrivé comme ça dans le rêve.
Non, bien sûr, mais c'est quand même votre rêve, vous êtes le créateur du rêve, même si ça se fait de façon inconsciente, non volontaire, on a l'impression qu'il y a eu un écrasement terrible au moment de son décès.
Oui, mais il est quand même décédé en 94, ça fait quand même 10 ans.
Comme si vous aviez perdu un pilier.
Ah, oui.
C'est la première fois que vous étiez confronté à la mort ?
Non, j'étais au bord du suicide il y a un an.
Non, mais quand vous avez perdu votre grand-mère ?
Oui, non, à l'époque, non, ça, j'étais pris dans... J'ai perdu notre grand-mère à la même époque.
Oui.
Et comme cette deuxième grand-mère est décédée, ça m'a pas fait grand-chose, en fait.
Oui, mais donc vous étiez déjà sous le choc de la perte de la première.
Disons que je suis quelqu'un de très sensible, donc effectivement, oui. j'ai pleuré. Oui, effectivement, oui.
Oui, mais donc, c'est la première fois à cette époque que vous êtes confronté à la mort, de façon proche.
Oui, confronté, oui.
Oui, parce que là, même si la perte affective est moins importante que je le suggère, il y a quand même un impact terrible, c'est tout d'un coup la prise de conscience de la mortalité. Nous sommes des êtres mortels et je vais perdre des éléments de ma famille comme moi-même je vais disparaître.
Oui.
Donc
oui.
Les choses qui semblent indéracinables, les éléments majestueux qui s'élèvent comme l'arbre, peuvent eux aussi à un moment donné vaciller et s'abattre sur le groupe de la famille.
D'accord, oui.
Donc créer un impact où tout d'un coup vous prenez conscience de votre mortalité et de l'étouffement que ça peut provoquer chez vous. Donc il y a une angoisse apparemment extrêmement forte par rapport à la mort, à l'idée de la mort.
J'ai voulu vraiment mourir, quoi. Je veux dire, je me suis posé la question et aux dernières minutes, j'ai eu un sursaut. Mais j'ai vraiment voulu passer de l'autre côté, voilà.
Oui, en tout cas, au moment où vous faites le rêve, ce sursaut est dépassé.
Oui.
Vous avez repris confiance en vous et votre visage est transcendé.
Oui, tout à fait, oui.
Donc il y a, apparemment, il y a une grâce que vous avez atteint dans cette, dans cette descente aux enfers.
Oui.
Vous avez accédé à une lumière à un moment donné qui a été salvatrice.
Tout à fait.
Et vous voyez que vous avez acquis un élément maintenant indélébile.
Tout à fait.
Et vous pouvez vous situer proche du groupe, des autres, ceux avec qui vous avez travaillé par exemple, mais en sachant que vous êtes maintenant fort aussi individuellement.
Tout à fait.
Et vous constatez que vous êtes enfin sorti de cette sensation d'étouffement, que vous avez dépassé votre angoisse de la mort.
Oui. Ah oui, parce que j'en ai plus peur du tout, quoi.
Oui.
Je peux mourir demain, c'est pas grave.
Oui. Alors ce qui est paradoxal, oui. Et ce que vous exprimez dans le rêve, c'est que l'angoisse de la mort peut amener à la pulsion morbide. C'est-à-dire qu'on peut être tellement angoissé par la mort qu'on peut être fasciné par elle.
Oui. Bah, tout à fait, oui.
Non, c'est paradoxal, parce qu'au contraire, on devrait se dire, j'ai tellement peur de la mort que je vais vivre. Et au contraire, la peur de la mort nous amène vers la mort.
Ah.
Mais apparemment, c'est un mouvement de transcendance, puisque vous dépassez cette peur et que vous ayez à vous-même, dans une autre façon, dans une façon d'être différente, totalement différente.
Oui.
Avec une sublimation de l'immême de la mort. Donc, comme si vous aviez répondu à certaines questions.
Oui.
Et que...
Ah oui, la transcendance, effectivement. Après, j'ai fait 2 séances de sophrologie, et en 2 séances, ça a été tellement vite que... Je sais pas, je suis passé de l'éveil à la contemplation, à l'illumination en très peu de temps. Donc, voilà. Je sais pas comment...
Oui, voilà, tout à fait.
Ça a été très vite.
Le visage que vous évoquez à la fin du rêve, c'est celui effectivement de la transfiguration. Donc d'une forme d'éveil intérieur qui donne des réponses.
Oui.
Donc qui permet de dépasser le sentiment, l'angoisse de la mort.
Oui.
Et donc,
parce que tout à l'heure j'avais entendu le délire mystique. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des révélations, des choses comme ça, mais je me suis efforcé de garder les pieds vraiment au sol, quoi, ancrés.
Oui, parce que là même dans le rêve, vous n'en parlez pas. Il n'y a pas d'espèce de, pour employer la même expression, de délire mystique exprimé dans le rêve. Il y a simplement le fait que votre visage est transformé. Donc vous avez rencontré une lumière intérieure qui est plus forte que la simple, que le désir. Qui est une réalité, qui est une expérience vécue.
Oui.
Donc plus fort qu'un désir de spiritualité. Et dans le désir, par exemple, il peut y avoir l'aspect prosélyte. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le doute, on a envie de convaincre les autres. Par contre, quand on vit les événements spirituels de l'intérieur, on est tellement rayonnant qu'on n'a pas besoin d'avoir envie de les convaincre. Notre propre existence peut être une façon de convaincre.
Tout à fait. Donc on a un moment, il n'y a plus besoin de parler, quoi.
Voilà, exactement. Mais de vivre et d'être.
Eh ouais, oui. Donc voilà, donc ce rêve, il exprime ça, en fait.
Tout à fait. La transcendance.
Parce que moi, j'avais pensé vraiment à la culpabilité. Donc, c'est bien. Votre analyse, elle est bonne. Enfin, puisque moi, j'ai fait une analyse, mais je me basais sur la culpabilité, en fait. Et je comprenais pas d'où venait cette culpabilité.
Ben voilà, là, a priori, j'en vois pas de traces de culpabilité. C'est possible, hein, on pourrait interpréter le rêve différemment. Ce n'est qu'une grille de lecture, hein, que je propose. C'est une interprétation parmi d'autres.
D'accord. Parce que c'est peut-être moi qui me suis créé cette culpabilité. Oui.
Mais là, je vois pas
par mon imaginaire.
J'en vois pas de traces, hein, dans le rêve.
D'accord. Okay. Donc
c'est quelque chose qui semble être dépassé, plutôt.
D'accord. Oui.
Mais encore une fois, selon mon analyse, ma simple analyse, qui n'est qu'un regard sur le rêve. Il y a d'autres possibilités d'approche du rêve, d'autres niveaux de lecture et d'autres interprétations possibles. Le rêve est un univers illimité.
Ah oui, tout à fait.
Selon Jung, notre perception du rêve restera toujours en deçà de la véritable portée du rêve. Le symbole et l'archétype du rêve sont tellement rayonnants qu'on ne peut en percevoir qu'une faible partie.
Ah. Et si vraiment, comme j'ai perçu, si on vraiment est sur un point précis, effectivement, il y a un équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit, il y a un point précis, une vision. Et on a l'impression de tout voir en même temps, d'un lieu précis. Et les éléments ne sont pas séparés, en fait.
Alors, à ce moment-là, effectivement, mais vous évoquez un regard qui est celui de l'éveil, oui.
Ouais.
Où on a une vision instantanée et juste de tout.
Oui, c'est comme s'il y avait un point dans l'univers, quelque part, et notre vision est parfaite. Il n'y a pas de projection. Tout est parfait, quoi. C'est un alignement parfait.
Et des instants de grâce.
Oui.
Donc qui pourrait être parfois aussi réel dans l'analyse. Par moments, on peut avoir des moments de grâce aussi.
D'accord.
Où la vision est parfaitement juste.
Oui, parce qu'il y a une frontière entre l'imaginaire et le réel. Il y a un point précis. Et dans la vie de tous les jours, c'est dur de le garder en permanence, quoi. Et voilà, c'est...
Mais vous êtes capable de le faire.
Bah, oui, je suis tout à fait capable de... Oui, tout à fait, oui. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable, je ne sais pas. Enfin, bon.
Bah, on pourrait le dire autrement, entre notre désir et la réalité, il peut y avoir parfois un monde. Et si on ne confond pas notre désir et la réalité, on est dans le juste, enfin, comme semble le montrer votre rêve, puisqu'il n'y a pas d'espèce d'inflation de l'ego ou de choses de ce style. Il n'y a pas de désir personnel exprimé, il y a simplement un ressenti et un regard sur vous-même.
Tout à fait, oui.
Le passage d'un état à un autre avec des réponses. En tout cas, un beau rêve.
Alors après, être porteur d'un message, bon, bah, c'est un peu le délire mystique, quoi.
Oui, c'est le symptôme d'un doute, en tout cas. Quand on a la foi intérieure, on ne doute plus, et donc on n'est plus prosélyte.
Donc après, c'est un choix personnel, en fait.
Enfin, ça, je ne sais pas.
Oui.
Mais c'est pas évoqué dans le rêve.
D'accord, ok.